jusqu'à 10h30, le buzz du jour, Jean-Marc Morandini.
Et le débat sur la fin de vie s'invite donc au très médiatique procès Bonne-Maison. Nicolas Bonne-Maison est en effet inquiété après la dénonciation par des infirmières de cas d'euthanasie active sur des malades pris en charge par le médecin urgentiste d'un hôpital de Bayonne. C'est l'occasion justement de rouvrir ce débat sur l'euthanasie. Alors qu'il était candidat à la présidentielle, François Hollande avait promis un projet de loi sur la fin de vie pour pallier au flou autour de la loi actuelle. Promesse restée lettre morte pour l'instant, en attendant la radiation peut-être de l'ordre des médecins pour violation du code de déontologie du docteur Bonne-Maison, une radiation qui avait poussé 250 de ses confrères à adresser une lettre ouverte à François Hollande. Alors, que pensez-vous de l'euthanasie? Faut-il légiférer là-dessus? On vous attend avec vos exemples, avec vos témoignages au 3921 standard d'Europe 1. Avec nous, pour en parler, Tuc Duhal-Derville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général d'Alliance Vita, une association qui agit pour le respect de la vie et la dignité humaine. Et face à vous, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Tuc Duhal-Derville, d'abord, c'est vrai que ce procès remet à la lumière ce débat sur l'euthanasie. Est-ce qu'il faut légiférer aujourd'hui là-dessus? Est-ce qu'il faut préciser la loi qui existe déjà?
Alors, vous savez, finalement, de la vie même, je crois, de ceux qui l'observent et des militants des deux bords, c'est pas forcément le procès de l'euthanasie. Parce qu'on a un médecin, je crois qu'on le sait maintenant, fragile, je voudrais pas charger sa barque, qui a poussé la seringue pour des personnes âgées qui n'avaient rien demandé. Voilà.
De toute façon, la justice est dessus, donc on va pas refaire le procès. Mais l'idée, c'est que ça rouvre ce débat sur l'euthanasie.
C'est vrai que c'est une question, c'est l'empoisonnement. C'est la question qui est derrière. Alors oui, sur le débat sur l'euthanasie, je pense que la loi Nonetti effectivement n'est pas suffisamment connue, qu'elle récuse à la fois l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, mais surtout qu'elle promeut les soins palliatifs avec le consentement éclairé des patients pour les traitements qui leur sont donnés. Et quand, ce que j'ai vu en tout cas des affaires, c'est vraiment un défaut de soins, de prise en charge. Quand on voit que des personnes âgées sont, je dirais, maltraitées, parce que finalement, je crois que l'euthanasie c'est l'ultime maltraitance.
C'est une maltraitance, oui, l'euthanasie pour vous.
On a beaucoup d'ambivalence par rapport à la vieillesse au grand âge. On a une angoisse, nous tous. On a une angoisse aussi par rapport à la démographie, par rapport à la solitude. Et donc l'enjeu pour nous, c'est qu'est-ce que on dit, qu'est-ce qu'on montre à des personnes devenues très âgées et dépendantes.
Pour être clair, face à la souffrance d'une personne âgée qui n'a pas d'espoir, qui va mourir dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, parce qu'hélas, des gens le savent, on leur explique, et il y a des maladies qui sont incurables.
Oui, bien sûr.
On ne peut pas pratiquer l'euthanasie.
Ah, bien sûr, non. Parce qu'à partir du moment où vous passez à l'acte, vous transgressez cet interdit qui fonde la confiance entre soignants et soignés. Nous, dans nos services d'écoute...
S'il y a une demande.
Oui, mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a derrière une pareille demande? Moi, ce qui m'effraie, c'est le taux de suicide des personnes âgées. Plus de 85 ans, deux fois plus que des gens d'âge mûr. Un tiers des suicides de personnes âgées a lieu lorsqu'on leur annonce un changement de résidence.
Vous voulez dire que c'est la désespérance,
voilà,
en fait.
Voilà, c'est cette solitude. Et effectivement, le regard que nous portons sur la vieillesse, la nôtre d'ailleurs, ultime, et la grande vieillesse, la grande dépendance, conditionne largement le regard que ces personnes ont sur elles-mêmes. Donc l'enjeu d'un tel procès, et c'est ce que nous avons vu dans notre service d'écoute SOS Fin de Vie, des appels à l'aide de gens qui nous disaient « Mais alors ma vie, elle ne vaut rien ?» Si des soignants manifestent pour soutenir un médecin qui a empoisonné des personnes âgées qui n'avaient rien demandé, alors est-ce que ma vie ne vaut plus rien? Est-ce que je suis au fond? Déjà, je crois que c'est ce qui est en jeu, c'est l'euthanasie sociale des personnes âgées. Et c'est ça contre lequel nous devons lutter par la solidarité.
Mathias Leboeuf, vous venez d'entendre les mots très forts, quand même prononcés par Tuc Duhal-Derville, qui dit « L'euthanasie, c'est l'ultime maltraitance ».
Non, moi je crois pas. Je crois que l'euthanasie, ça va être l'ultime choix. On peut choisir de mourir en homme libre. Vous savez, déjà dans l'Antiquité, les stoïciens étaient entre guillemets les promoteurs du suicide et d'une forme d'euthanasie, c'est-à-dire on choisit de partir.
C'est une forme de liberté, c'est ce que vous voulez dire. Choisir de mourir, ça fait partie de la liberté.
Ça doit faire partie de la liberté, effectivement. Je ne crois pas que ce soit une question de maltraitance. Alors effectivement, la loi Leonetti, qui date de 2005, elle est insuffisante parce que c'est une sorte de loi qui encadre entre guillemets et qui permet une espèce d'euthanasie passive qui ne dit pas son nom et qui laisse dans un désarroi à la fois le patient et puis les médecins, les familles. Donc c'est une loi a minima qui permet des soins palliatifs, mais bon.
Mais juste sur le choix de mourir, Tuc Duhal-Derville, c'est une liberté?
Vous savez, vous l'avez entendu, vous avez parlé de promotion du suicide par les stoïciens. L'enjeu est largement culturel.
Sur ce point précis, est-ce que c'est pas une liberté de choisir de mourir?
Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, il y a un état culturel derrière. C'est largement lié au regard des autres, c'est lié à la pression de la société. Et effectivement, à partir du moment où la prévention du suicide, qui est une cause nationale, quand les gens arrivent aux urgences désespérés à 20 à 30 ans...
Ça, je comprends, mais vous répondez pas à ma question. Oui. Comme vient de le dire Mathias Leboeuf, est-ce que choisir de mourir, c'est pas une liberté qu'on a tous?
Non, justement.
Pourquoi?
Justement, parce que c'est conditionné par le regard de l'extérieur.
Et si mais non, mais ça peut être une souffrance. Oui. On peut souffrir au point de se dire j'ai envie
bien
de mourir.
Bien sûr, mais j'entends ça souvent. J'entends ça souvent.
La fin de vie n'est pas conditionnée par le regard extérieur. C'est-à-dire que c'est pas les autres qui doivent déterminer si vous devez continuer à vivre ou pas. Qu'on ait des croyances religieuses ou pas, on doit pouvoir à un moment donné choisir d'en finir, de tirer le rideau et de partir dignement. Vous savez, votre position, moi, elle me paraît très dogmatique et théorique parce qu'il y a des tas de gens qui sont à un moment donné dans des espèces de limbes, ils sont entre la vie et la mort, le corps craque, ils sont parfois plus conscients pour la plupart.
On va prendre des exemples justement, puisqu'on en certains... parle, je crois que rien ne vaut les exemples et ce qu'ont vécu les auditeurs d'Europe 1.
C'est l'accompagnement qui fait défaut et c'est ouais. ça que nous voulons promouvoir.
On va prendre Claire, bonjour Claire.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, voilà. Vous voulez nous parler de votre mari, vous?
Oui, alors mon mari est décédé en 1989 de la maladie de Charcot, donc je pense que maintenant un peu tout le monde sait ça, c'est-à-dire maladie de Charcot, 2 ans de vie à partir de la détection de la maladie, 2 ans à vivre. On lui a caché pratiquement pendant 2 ans, selon les médecins, on a caché la maladie aux malades, on a menti dans toute la famille, les amis, bref, et mon mari est 3 mois avant son décès, avant février, au mois de novembre, j'ai connu un neurologue super à l'Hôtel Dieu. J'aimerais le nommer parce qu'il est... Enfin bon, je sais pas, je vous me dirai si je peux le nommer après.
Oui, parce que vous l'avez trouvé super, allez-y, il n'y a pas de souci.
Était super, c'est le docteur Méninger qui en fait a créé l'association ARS, hein, qui est pour la recherche et disons l'aide aux familles surtout. Donc pendant 2 ans, on a menti à mon mari. Et quand j'ai connu ce neurologue-là, il m'a dit, la maladie, elle n'est pas la vôtre, elle est la sienne.
Et c'est à lui de décider, en fait, c'est ça?
Pour lui, il fallait lui dire, dès le début, et c'est à lui de décider. Or, vous savez qu'à la maladie de Charcot, on a le cerveau qui fonctionne, il n'y a que ça qui fonctionne jusqu'à la fin. Donc, il lui a dit, le jour où il voudra partir, je l'aiderai. Et mon mari a sûrement, parce que c'était une affaire entre lui et le neurologue... Il a parce qu'il est arrivé aux urgences, il ne pouvait plus respirer.
Et donc, c'est votre mari qui a décidé de partir, Claire?
Il a demandé. Je ne l'ai jamais su, hein, mais je le savais que. Arrivé.
Vous l'avez vécu comment? Vous l'avez vécu comment, vous, Claire?
J'ai vécu déjà 2 ans de mensonges vis-à-vis de mon mari, et mon mari savait qu'il mourait. Et quand il a appris que ce qu'il vraiment, quand le médecin, enfin le neurologue lui a dit, je ne peux rien pour vous, malheureusement, c'est pour ça que n'ayant rien pour vous, je vous aiderai à partir. Mmh. Il m'a écrit parce qu'il arrivait encore à écrire, parce qu'il pouvait plus parler, et il a écrit, je ne veux plus vous faire souffrir. Et le soir même, dans la nuit, il est décédé. J'ai vu. Qu'on lui avait injecté parce qu'il était nourri par sonde, et on a injecté un produit létal. Enfin, voilà. C'est moi-même qui l'ai mis. Voyez?
C'est vous
qui... Le médecin, l'infirmière a voulu que ce soit moi pour que je comprenne que c'était une demande de mon mari. Mais il n'y a pas eu de mots entre le neurologue et moi. C'était une affaire entre le malade et le docteur et le neurologue.
Mais c'est vous qui avez injecté le produit?
C'est moi qui l'ai injecté. Je savais comment ça se passerait. Mon fils était au courant. Il était là. Et moi, j'ai rien dit à mon fils. Tout s'est passé dans le silence, dans la paix, dans la sérénité. Mon mari s'est endormi parce qu'il savait qu'il était perdu. Voilà. Il a eu l'amour propre de nous dire, je ne veux plus vous faire souffrir.
Ouais, j'ai bien compris.
Parce qu'il souffrait lui-même.
Incroyable témoignage, en tout cas. Merci Claire, voilà, ça fait réfléchir et c'est assez surprenant comme témoignage. Merci de l'avoir fait sur Europe 1. Bonjour Josiane.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous dites, j'ai eu la malchance de voir mes parents partir dans la douleur.
Oui, absolument. Et c'est à Saint-Antoine, donc c'est un hôpital qui est quand même bien connu, qui est bien encadré. Il a fallu que je me dispute pratiquement avec le médecin. Je ne voulais pas qu'on tue mon père. C'était pas ça, mais j'en avais assez de voir mon père se mettre des coups de poing dans le ventre. C'est pas normal. Il avait 85 ans.
Parce qu'il souffrait. C'était pour ça les coups de poing. C'était la souffrance.
Oui, c'était la souffrance. J'ai jamais eu mon père me dire je veux mourir, je veux arrêter de souffrir. Et ça voulait dire pratiquement la même chose. Il savait qu'il était perdu, qu'il allait partir. Bon, alors pourquoi ne pas laisser partir les gens tranquillement, avec dignité? Il a fallu que je me dispute avec ce médecin, à lui faire comprendre que c'était fini, qu'on ne lui demande pas de le tuer, on lui demandait juste de faire de la morphine. Ah oui, mais si on fait de la morphine, dans 3 jours, il est mort. Oui, il est mort. C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Il faut arrêter que le serment d'Hippocrate soit le serment d'hypocrite. Et c'est ce qui me désespère, parce qu'ils ne font même pas la différence. Et je lui ai montré, je lui ai expliqué qu'un jour, il serait dans un lit comme ça. Et ses parents, peut-être, avant. Alors qu'il ait le respect des autres. Et quand il a mis cette piqûre, mon père s'est apaisé. Il est parti au bout de 3 jours, mais... tranquille, avec un visage décontracté. Pourquoi ne pas l'avoir fait, l'aller voir laisser souffrir avant? Je ne peux pas comprendre.
Alors, je voudrais que Tuc Duhal-Derville vous réponde, parce que vous comprenez quand même cette souffrance qu'a vécu et Josiane et son père aussi.
Bien sûr, on est tous concernés d'une manière ou d'une autre par cette souffrance d'un proche. Mais ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a une confusion entre les soins palliatifs appropriés et notamment la morphine, qui n'est pas un produit euthanasique. La morphine, c'est un produit antidouleur. Et effectivement, il peut y avoir.
Très bien.
Oui, bien sûr, il peut y avoir des grandes lacunes dans l'administration de la douleur, et heureusement...
Mais justement, alors pourquoi les médecins ne sont-ils pas même de réaliser que, peut-être, oui, en mettant de la morphine, ça va l'empêcher de souffrir, oui, il va mourir.
C'est ce qu'on appelle le principe de l'acte à double effet, c'est-à-dire, on assume que des soins antidouleurs, dans certains cas, peuvent accélérer la survenue de la mort. Mon propre père a eu également de la morphine, et j'ai assisté à son décès paisiblement.
Mais ça accélère la mort
en même temps. Éventuellement, ce n'est pas le but visé.
Et oui, donc, c'est là, pas le but, mais... on joue sur les mots
non,
en même
c'est
temps.
Toute la différence.
Parce que vous dites non à l'euthanasie, mais on lui donne de la morphine qui va accélérer la mort.
C'est l'euthanasie passive,
non, c'est l'intention qui compte. C'est-à-dire que on est en paix avec ça. Ce monsieur n'a pas forcément été euthanasié. Il aurait peut-être dû avoir de la morphine plus tôt. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un énorme progrès. Nous demandons au gouvernement de mettre en place vraiment ce plan de développement des soins palliatifs qui est resté lettre morte. Le président Hollande l'avait promis. Ce n'est toujours pas mis en place. Et par ailleurs, vous avez entendu aussi le témoignage précédent qui était très poignant. La personne qui dit « je ne veux plus vous faire souffrir ». Et on voit bien que l'accompagnement doit s'étendre aux proches, parce que les proches n'en peuvent plus. Et c'est ça aussi qui est en jeu.
C'est dur à vivre aussi pour les gens. Oui. Merci Josiane pour votre témoignage. On va prendre Sébastien qui nous appelle de Tours. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Vous dites que ça fait partie du choix du malade.
Ouais, tout à fait. Et puis je pense que c'est toujours facile de juger quand on n'est pas du tout dans le... On n'est pas du tout dans le sujet, quoi. C'est très simple. Et je pense que c'est une liberté aussi. Je pense qu'on est en train de la perdre. Et je pense que c'est le choix de la personne, en fait, de mourir ou pas. Et c'est vrai que on parle uniquement en ce moment là que des personnes âgées, mais il y a aussi les enfants aussi quand ils sont en phase finale. Et je pense que c'est aussi un sujet très important. Et je pense qu'on n'en parle pas aussi assez. Ça peut concerner tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas uniquement les personnes âgées qui ont le droit de mourir, en fait.
Mais vous avez entendu tout à l'heure que Duhal-Derville disait non, ça fait pas partie des libertés finalement. Ce choix, ce qu'on a envie en général, c'est de ne pas souffrir.
Bien sûr, c'est vrai que si les soins antidouleurs, les soins palliatifs d'accompagnement sont développés, on n'aura pas ces situations dramatiques.
Vous êtes d'accord avec ça, Sébastien?
Non, pas du tout. Enfin, moi, je sais que là, en ce moment, je suis malade. Là, je suis sous morphine. Et c'est vrai que j'ai énormément souffert. Et pendant un temps, j'y ai vraiment pensé, quoi. J'ai dit, si je continue à souffrir comme ça, en fait, on y pense quand même, même si on veut pas y penser, on y pense quand même, quoi. J'en ai ras-le-bol, quoi. J'ai pas envie de souffrir comme ça tout le temps, quoi. Enfin, on peut pas se mettre à la place des gens, c'est pas possible, quoi. Je sais pas. Je pense qu'on peut pas vraiment.
Mais vous, Sébastien, ça veut dire que vous avez pensé, vous vous êtes dit, si je continue à souffrir comme ça, à un moment, peut-être, je demanderai à mourir.
Ouais, certainement, parce que c'est vrai que moi j'en ai parlé autour de moi, mais c'est vrai que si un jour je suis vraiment dans cette situation-là, enfin, je vois pas pourquoi on est sur Terre, en fait. On n'est pas là pour souffrir, en fait. Enfin, je trouve que c'est une liberté. C'est comme l'IVG. Je pense que c'est une liberté. Et puis, je pense qu'en France, c'est comme tout, quoi. On va être en retard encore par rapport à la Belgique, où il y avait vraiment un reportage sur France 5 dans les magazines de santé où ils ont fait toute une semaine là en Belgique. C'était vraiment formidable. Et quand on écoute les gens, en fait, qui souffrent, c'est vrai que on peut pas se mettre à leur place, mais on peut comprendre quand même que la souffrance, quand même, est... enfin voilà, quoi. Je trouve que c'est une liberté aussi de pouvoir mourir, et je pense que c'est un choix, quoi. Donc
merci.
Voilà, quoi.
Merci Sébastien de l'avoir dit sur Europe 1. Il nous appelait de Tours. Hein. La liberté de pouvoir mourir, c'est un fait intéressant. On en reparle dans un instant. On va faire une petite pause, et puis vous continuez à nous appeler, à réagir donc sur ce débat sur l'euthanasie qui est réouvert à l'occasion de ce procès du docteur Bonnemaison. À tout de suite, c'est Europe 1, 10h19.
Europe 1.
La suite du buzz du jour, faut-il poursuivre et condamner les médecins qui pratiquent l'euthanasie? Pour en débattre, le journaliste et philosophe Mathias Leboeuf et Tuc d'Alderville, délégué général d'Alliance Vita, une association qui agit pour le respect de la vie et de la dignité humaine. Il est l'auteur du livre La bataille de l'euthanasie aux éditions Salvator.
Et au 39-21, vous appelle. Bonjour Framboise.
Oui, bonjour Jean-Marc.
Bienvenue sur Europe 1. Vous vous dites, oui. Les soins palliatifs, c'est un mensonge. Alors expliquez-moi pourquoi.
C'est un mensonge. En réalité, les infirmières font ce qu'elles peuvent, les pauvres, mais elles n'ont aucune directive véritable. Elles aident les malades à ne pas trop souffrir, mais moi, j'ai un mari qui est entré à l'hôpital pour un cancer du pancréas, donc incurable, absolument très avancé. Au bout du troisième jour, on m'a annoncé que c'était fichu. Lui-même l'a su. Il a demandé chaque jour qu'on l'aide à mourir. Chaque jour de son hospitalisation, il a demandé qu'on l'aide à mourir. On n'a rien fait. Rien. La seule solution qu'a trouvé mon mari, c'est de cesser de manger, de cesser de boire, jusqu'à ce qu'il perde 30 kilos et meure de sa propre volonté, au bout de souffrances physiques et morales épouvantables, et pour lui et pour son entourage. Et je trouve inadmissible cette hypocrisie qui vous raconte, comme fait monsieur, dont j'ai oublié le nom malheureusement.
Tuc d'Alderville, oui.
Voilà, je suis confuse de lui parler directement de cette façon un petit peu rude et violente.
Mais j'entends.
Voilà, mais ça n'est plus une question de croyance ou de quoi que ce soit, c'est une question d'humanité simplement. Un malade qui est conscient, qui demande de mourir, qu'on l'aide à mourir, pourquoi ne le fait-on pas? On ne raconte pas qu'il y a des croyances, trucs, machin, ça n'a aucun intérêt tout ça. Le malade veut mourir, on doit l'aider à mourir, il faut légiférer absolument. Il n'est pas pensable qu'on laisse des personnes dans cet état. Mon mari me disait, regarde ce que je suis devenue, c'est atroce. Aide-moi à mourir. Je n'avais qu'une idée, c'était appuyer sur la seringue pour qu'il meure, parce que il avait besoin de mourir et on en parlait tous les jours, tous les deux, et personne ne voulait l'entendre. J'ai dû hurler dans le couloir pour convoquer les médecins, pour leur expliquer, ils ne voulaient rien savoir. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? On n'a plus de liberté. Qu'est-ce qui se passe?
C'est un peu toujours le même témoignage qui revient. C'est
oui,
terrible.
Mais parce qu'on est tous d'accord.
Exactement.
On est tous d'accord.
Et il faut s'engueuler avec les médecins, en fait.
Oui.
Il faut hausser le ton pour arriver à quelque chose. C'est terrible.
Oui.
Hein.
D'ailleurs, les infirmières sont venues me remercier d'avoir eu le courage de m'en prendre aux médecins. Parce que personne ne le fait.
Mais ils n'ont pas le droit en même temps. Les médecins n'ont pas le droit en même temps. Enfin, voilà, c'est compliqué.
Mais pourquoi ne légiférer ? Il faut légiférer sur cette chose-là. C'est important.
Tuc d'Alderville.
Moi, ce qui me frappe dans votre témoignage, c'est que vous avez commencé à dire, au fond, combien à vos yeux les soins palliatifs étaient une sorte d'hypocrisie, un échec.
Mais ça a pas marché sur son mari, visiblement.
Est-ce que véritablement cette personne a été prise en charge de manière approfondie en soins palliatifs, dans un service de soins palliatifs, par des personnalités
palliatifs les deux dernières semaines avec des infirmières absolument adorables mais totalement démunies. J'ai vu deux jours avant sa mort, je les ai vus encore lui faire des aspirations de poumons alors qu'il était presque dans le coma. Il a poussé des hurlements. J'ai dû rentrer dans sa chambre pour demander qu'on arrête, mais enfin écoutez, ça n'a pas de sens. On fait encore souffrir un mourant pour soi-disant l'aider à respirer alors qu'il avait déjà deux machines branchées. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Enfin,
moi, c'est sûr que ce témoignage, il n'y a rien à en dire quand on entend ça. Sauf que je me dis, mais quelle prise en charge quand on voit que ces soins palliatifs ne sont pas assez développés, peut-être pas assez de formation pour les soignants. Mais vous savez qu'en Belgique, qui a été évoqué par Sébastien tout à l'heure, 42% des euthanasies en Wallonie ne sont pas déclarées, elles sont clandestines. Et donc, si on passe à l'acte en France, en légalisant l'euthanasie, en avançant cette liberté des personnes, nous pensons, et nous voyons déjà ça en Belgique, que des personnes qui n'ont rien demandé seront euthanasiées, parce que ça coûte moins cher que les soins palliatifs, que la formation des soignants.
Un mot très court, je crois que les soins palliatifs, c'est pas la panacée, et parfois ils ne pallient rien, justement. Et je crois surtout qu'il est vital d'ouvrir un grand débat et de légiférer à nouveau et de réformer la loi de Néonetti pour arriver à un cadre qui soit satisfaisant. La société est prête pour ça aujourd'hui.
Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir débattu ce matin sur Europe 1. Hein.